Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
C'est pas du renouvellement de...
On est tout début juillet et c'est le jour du concours d'agroforesterie en Finistère. L'agroforesterie, pour faire court, ça consiste à produire en associant l'arbre et l'agriculture. On est à la ferme de Penarméné, à Pont-de-Buis-les-Quimères, chez Manon Josset et Nils Révillon, qui participent pour la première fois au concours en catégorie implantation, pour des plantations de plus de 4 ans, mais de moins de 10 ans.
On va aller à gauche.
À gauche ?
Les gars, il y a du jus dans celle-là.
Les deux syndicats de bassins versants locaux se sont associés pour organiser ce concours. Ils sont représentés ce matin par les techniciennes et techniciens bocage Nora Abo pour les Pagas et le bassin versant de l'Aulne et François Cabaret pour celui de l'Élorne.
On travaille beaucoup avec Nora parce que nos deux bassins versants sont collés l'un à l'autre et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on relance la dynamique du concours sur nos territoires. Et donc pour avoir à la fois un ensemble d'agriculteurs assez intéressant et pouvoir faire un partage, on s'est dit que c'était plus intéressant de le faire ensemble. Et comme ça on partage le jury, on fait tout ensemble. Et à la fin l'objectif c'est carrément d'aller faire la remise des prix avec un autre territoire, donc le territoire nord-finistérien, vraiment le Léon, pour pouvoir encore partager encore plus, quoi.
Ce concours date de quand? Il vient d'où?
En fait, c'est une déclinaison du concours général agricole qui est à Paris en fait pendant le salon de l'agriculture au mois de mars. D'abord, en fait, localement, il y a un concours local d'agroforesterie qui est mis en place par les collectivités qui le désirent. Nous, on avait fait une première fois en 2022. Avec les remises de prix en 2023 au salon de l'agriculture, et du coup on avait voulu refaire ça aussi cette année. La dernière fois on faisait sur la catégorie gestion, donc en fait on choisissait des agriculteurs qui avaient un système en place depuis au moins 10 ans. Et là on est passé cette année sur la catégorie implantation, donc sur des haies qui ont entre 4 et 10 ans.
Et depuis quand on fait des concours d'agroforesterie officiels? Ça doit pas être très vieux, non?
Le concours a été créé en 2019, à partir de 2019, voilà.
Parce que l'agroforesterie, ça fait pas si longtemps qu'on en reparle, enfin qu'on emploie le mot en tout cas. Qu'est-ce qu'on met derrière?
Agroforesterie, alors vraiment à l'échelle nationale, ça va prendre en chose les haies, mais aussi les arbres en intraparcellaire, donc les arbres isolés dans les champs, qui vont être espacés de plusieurs dizaines, vingtaines de mètres. Où en dessous on peut mettre des cultures, on peut mettre du pâturage. Et en Bretagne on a moins cet aspect-là, l'agroforesterie ça ressemble quand même plus au bocage, vraiment, donc le maillage bocager, les haies dans les parcelles et l'interaction entre l'élevage, les haies et aussi les grandes cultures. Des haies sur talus, connectées les unes entre elles, quoi.
Et pourquoi est-ce qu'on y revient et pourquoi c'est les bassins versants qui s'en occupent ici?
Alors bassins versants, on porte le programme Brice Bocage en fait depuis 2015. Nous on accompagne les agriculteurs dans la plantation, dans la gestion, dans la valorisation. On accompagne aussi les communes et les communautés de communes dans la protection du bocage dans leurs documents d'urbanisme. C'est pour ça qu'on a aussi décidé de promouvoir la gestion durable et l'implantation des haies via le concours d'agroforesterie.
Et pourquoi on revient à l'agroforesterie alors?
Pour tous les bénéfices qu'elle représente à l'échelle du territoire ou de l'exploitation, que ce soit donc la préservation des sols, en retenant les sols agricoles, parce que sur nos territoires, on a beaucoup cette problématique-là de perte de terres agricoles.
L'érosion, enfin.
Oui, l'érosion, tout simplement. Pour les bienfaits de la haie, d'un point de vue bien-être animal, même pour les cultures, protection des cultures via face aux aléas climatiques, au vent. Notamment, on aura la chance de le voir aujourd'hui, avec des parcelles exposées à l'est qui sont assez séchantes. Et en fait, la haie apporte un bénéfice de protection, donc un gain en termes de rendement pour les agriculteurs. Et puis aussi, en fait, sur la diversification des revenus pour l'agriculteur. Il n'y a plus les œufs dans le même panier. En gros, quand on n'a que des cultures, on n'a que les cultures comme gain, alors que sur un système avec de l'agroforesterie, on peut en tirer un peu d'argent chaque année, quoi.
Et sur la dynamique hydrologique?
C'est la dynamique hydrologique, tout simplement en termes de tampons, mais aussi en termes de redistribution, qu'on oublie beaucoup. Le talus, c'est comme une grosse éponge, ou comme les tourbières, si vous préférez aussi, c'est que ça se gonfle en hiver avec l'eau, et après, en été, ça la redistribue via le système racinaire et ce qu'on appelle souvent les champignons du sol, les mycorhizes, donc en fait qui sont associés à certaines essences qui redistribuent via le champignon l'eau autour d'eux, quoi. Ça se voit pas forcément directement, ça dépend vraiment des haies, des cultures, mais voilà, on entend souvent que la haie a un aspect négatif, ce n'est pas le cas, hein. En termes de protection, c'est 15 fois sa hauteur. En termes de redistribution d'eau, ben, ça dépendra des parcelles et du contexte aussi, mais on voit des gros gains significatifs, quoi.
Ça permet vraiment en fait à l'eau de s'infiltrer au niveau de la parcelle et éviter qu'elle parte trop à l'aval. Et on le voit actuellement, là en fait on est sur une période de sécheresse. Et du coup le fait d'avoir des haies, ça stocke l'eau au niveau de la parcelle. Et ça permet d'avoir un environnement hydrologique beaucoup plus favorable en fait pour la haie et pour les parcelles et les cultures aussi associées.
Et ça dépollue éventuellement ou pas ?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, dans les racines des arbres, on va avoir justement des bactéries, des champignons qui vont permettre de récupérer en fait les polluants ou les intrants et de les faire s'assimiler, notamment pour les intrants, tout ce qui est nitrate, par l'arbre. Et du coup, ça permet derrière à l'aval d'avoir une meilleure qualité de l'eau aussi dans nos cours d'eau, quoi.
D'ailleurs, je n'ai pas posé la question, mais le concours, c'est que dans des exploitations bio ou pas spécialement ?
Non, c'est ouvert à tout le monde. Tout agriculteur qui veut participer au concours d'agroforesterie, s'il rentre dans la catégorie gestion ou implantation, il peut participer au concours.
Niels Révillon emmène donc le jury sur une parcelle de sa ferme de production de lait, fromage et œufs en agriculture biologique. Les membres du jury vont examiner en particulier un talus planté d'une haie présenté pour le concours.
Donc c'est une parcelle d'un petit hectare, un peu moins d'un hectare, qui a été récemment pâturée par nos génisses, donc de jeunes veaux qui ont été sevrés et donc qui sont pour leur premier mois au pâturage. C'est une parcelle qui est relativement en pente, assez séchante, il y a très peu de sol. C'est une ancienne lande qui a été réhabilitée par nos prédécesseurs, je dirais, il y a une vingtaine d'années. Donc elle était avant, je pense, composée d'ajoncs, de ronciers, de genêts, tout ce qu'on trouve dans une lande ici, quoi. Et elle a été ressemée. Du coup, nous, on essaye de l'entretenir avec le pâturage, quasi exclusivement, et on passe un coup d'entretien au gyrobroyeur par an, une fois par an, pour faucher les refus. Donc là, ça va arriver juste après, parce que là, on voit qu'il reste un petit peu de refus.
Les refus, c'est ce que les vaches mangent pas.
Voilà, c'est ce que les génisses n'ont pas daigné manger.
C'est des graminées, quoi. Hein.
C'est souvent des graminées qui sont refusées. On voit aussi des ronces. Et donc, je trouvais que c'était une parcelle intéressante parce que donc il y a une haie qui a été plantée sur talus il y a une dizaine d'années, il y a 9 ans pour être exact, par nos prédécesseurs. Donc sur laquelle on fait un entretien. Là, pour l'instant, depuis qu'on est installé, nous, on n'a pas entretenu. Eux, ils avaient fait une taille de formation, il me semble. Et nous, on n'a pas encore pris le temps de continuer les tailles à faire sur cette haie. Il y a aussi un quart de la parcelle qui est cerné par une lisière de forêt, en fait. Donc là, c'est une forêt de 40 hectares avec des arbres assez âgés. Il y a beaucoup de châtaigniers, de chênes, des noisetiers, des aubépines. Après, il y a tout ce qu'on voit en lisière de forêt. Et de notre autre côté, on a un petit peu, je pense, ce qui était à l'image de cette lande avant qu'elle n'ait été réimplantée en prairie. Donc un corps arbustif avec beaucoup d'ajoncs, de genêts, des ronciers. Et puis derrière, un chemin de randonnée qui est délimité.
C'est le circuit de la radio, non, qui passe là ?
C'est le circuit de la radio qui passe juste à côté, ouais. Ouais. Voilà.
Le talus
a été implanté. Ce qui peut expliquer d'ailleurs un petit peu, parce que moi je trouve que c'est une haie, j'ai pas trop le recul, mais pour 10 ans je trouve que c'est une haie qui est relativement basse. Je pense que c'est un talus qui a été élaboré à partir de remblais et pas de la terre qui était ici. Du coup, je pense que c'est un talus c'est un peu dur pour les arbres de pousser dedans. Et puis on est dans une pente, donc c'est un talus qui bénéficie des ruissellements d'eau, tu vois, qui retient de l'eau, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'eau qui ruisselle de cette parcelle parce qu'on est déjà sur une prairie, donc le sol n'est pas à nu. Les plantes qui sont sur cette prairie, elles absorbent de l'eau. Et ensuite, le talus fait office de régulation. Donc je pense qu'il y a très peu d'eau qui arrive dans l'angle, hormis quand on a une énorme drache qui dépasse 50 mm en 20 minutes, quoi. On n'est pas sur un terrain qui est suffisamment érodé pour qu'il y ait trop de ruissellement. C'est sûr que s'il n'y avait pas de talus là, on aurait sûrement des veines d'eau qui ruisselleraient par là et qui rainuraient, qui ravineraient un petit peu l'angle le plus bas de la parcelle, quoi. Okay.
Voilà. Derrière, c'est à vous aussi.
Derrière, c'est à nous, ouais. Là, on est cerné par que des parcelles à nous.
Le jury se compose de professionnels aptes à juger les caractéristiques agronomiques, mais aussi écologiques et paysagères du talus.
Moi, c'est Alain Coïc, anciennement chambre d'agriculture, travaillé sur le bocage et la forêt.
Jean-François Sarrault, je ne suis plus agriculteur, mais je l'ai été une grande partie de ma... Enfin, je l'ai été toute ma carrière professionnelle et elle était longue. Mais spécialisé non pas en élevage particulièrement, mais en production végétale pour des volailles. Et en tout cas, bon, en agriculture de conservation des sols et couverture permanente.
Pour le point de vue naturaliste, il y a Luc Guillard, animateur de Bretagne Vivante.
Qu'est-ce que Bretagne Vivante regarde dans le concours ?
Presque tout, mais en fait, on va regarder la structure de la haie, l'intérêt, je dirais, naturaliste, écologique, sa composition, le lien avec la gestion, en fait, hein, que Nils expliquait tout à l'heure, la diversité qu'on peut percevoir dedans, mais voir aussi l'intérêt écologique de l'infrastructure en termes de connexion, de corridor, de ce qui a été dit à l'instant par l'exploitant, justement, le rôle qu'elle peut jouer dans le système, en fait.
Parce que là, par exemple, pour quel genre d'animaux c'est intéressant, ces talus-haies ?
Ben là, ça va être intéressant quand même, je pense, pour pas mal d'invertébrés, puisqu'on a un talus très végétalisé, avec des structures d'herbes différentes en plus, enfin des hauteurs différentes. Puis l'aspect fourré, buissonnant, là, le fourré de ronces, de part et d'autre de la haie, plus les petites CP là, qui se mettent en place. Donc ça va être intéressant de ce point de vue-là. Pour des oiseaux aussi, hein, qui vont fréquenter justement les deux flancs du talus, le pareil. En fait,
Qui vont manger les invertébrés, justement.
Et qui vont manger les invertébrés, voilà, ils vont s'arranger un peu entre là-dedans, mais c'est et les petits mammifères aussi qui vont pouvoir exploiter cet espace. Peut-être que l'autre versant de la haie qui est l'autre côté là, plein sud, lui va être intéressant pour des reptiles par exemple, des choses comme ça.
Ah oui, ils préfèrent être au sud.
Ah ouais, ils vont préférer vraiment être au sud pour s'insoler, c'est leur microclimat, il est là-bas.
Mais ça sera pas trop sec.
Ah non, ils aiment bien ça aussi. Donc c'est au contraire, c'est plutôt très intéressant. Et ils vont se cantonner justement voilà, en frange de ce genre de talus là. Donc ça, c'est plutôt une belle petite infrastructure agroécologique. Les bêtes là vont s'occuper un peu du flanc du talus, mais ne vont pas aller chercher le sommet du talus, comme on voit comment le fil est disposé.
Ouais, il ne faut pas que les vaches mangent trop les arbres et les arbustes, en fait, c'est
non,
ça.
Non, voilà, ouais, c'est ça, parce qu'ils peuvent les tailler un peu, mais s'ils ont trop accès au talus, elles vont même pouvoir dégrader le talus. Quoi. Ouais. Pour imaginer qu'on les laisse passer de part et d'autre du talus, ça, c'est pas une bonne idée, en fait. Ouais.
Là, il faut juste qu'elles mangent à la base. Voilà,
ils ont fait l'entretien le long du talus, le travail est fait. Il y a à peine besoin d'intervenir derrière. Quoi.
Si l'intérêt naturaliste du bocage, de la haie, est important, il faut aussi se poser la question de l'économie et de la gestion des arbres de l'exploitation.
Enfin, en fait, premier objectif, c'est que les vaches le pâturent au maximum pour qu'on ait le moins possible à faire nous-mêmes et le moins de carburant utilisé, un maximum de valorisation de l'herbe qui pousse naturellement. Après, on voit aussi qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus délicates, c'est-à-dire qu'il y a des ronciers qui poussent. Donc là, bon, les génisses, elles refusent un peu de manger ça. Pour reprendre ça, par simplicité, on passe à la faux d'abord. On a quelqu'un qui bosse ici, qui est passionné de faux et qui est très très performant. On fait un premier passage à la faux, ce qui nous permet de réduire un petit peu la matière. Et ensuite, l'entretien se fait au broyeur d'accotement, une fois le pâturage terminé.
Tu as une clôture, ouais. Tu passes quand à peu près pour que ta clôture soit à peu près en état pour...
Quand je peux, c'est la réponse réaliste. Vraiment, on se donne une fin d'entretien autour de mars, c'est-à-dire que là, on aime bien avoir passé un coup de débroussailleuse au minimum ou un coup de faux. Voilà. Et là, après, de mars à maintenant, minimum, on n'y touche pas. Et à partir de maintenant, de toute façon, on a été dans les périodes de foin, donc on a beaucoup manqué de temps sur ces périodes-là aussi. Donc ça n'aurait pas vraiment de sens de se focaliser sur les entretiens. Mais dans l'été, courant octobre, jusqu'à octobre, en fait, on va réaliser tous les entretiens de clôture. Quoi. Bon, il y a quand même à peu près 20 km de linéaire de clôture, voire plus. Donc de toute façon, on ne peut pas être partout en même temps. Il faut étaler. Le broyeur d'accotement nous le dira.
Ouais, on a du noisetier, du chêne, de mémoire il y avait du fusain ailé aussi implanté de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a de...
La bourdaine,
à quel âge la fait ? C'est celle qui fait les fruits rouges là ?
Bon, c'est pas moi qui l'ai implanté encore une fois, mais là, au vu des essences qui sont dedans, de l'entretien que je peux faire, et du niveau de pousse. Actuellement, on serait plutôt surtout sur une logique écologique, de zone refuge, de zone passage entre plusieurs types de parcelles.
On a une forêt d'un côté, on a la lande et le chemin de l'autre côté, c'est intéressant.
Ouais. Bon, l'objectif d'hygro régulation liée au talus, évidemment. Et après, sur ce qu'on va entretenir ici, nous, on a prévu d'acheter un petit broyeur de branches qui s'attelle derrière le tracteur. Et donc, du coup, je pense que toutes les branches issues de l'entretien de cette haie, elles, par exemple, les CP de noisetier, là, si on les remet à plat, on les passerait en broyat, et ce broyat, on l'utiliserait pour la litière de nos volailles. On ne serait pas en mesure de produire suffisamment de litière pour nos vaches, mais pour nos volailles. Et après, on a une chaudière à bois déchiqueté à la ferme, à la maison aussi. Donc ça pourrait être un usage. Voilà. C'est un peu l'idée.
Tu nous as dit que tu avais 20 km de haies. Donc il y a une masse de bois qui est conséquente. Et à terme, comment tu vas gérer tout ça?
Je pense qu'il faut qu'on établisse un plan de gestion. Ça, c'est clair et net, parce qu'on ne sait pas trop où on va. On est assez peu outillé en outils manuels, en outils attelés. Du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on établisse des objectifs clairs en fonction des zones et en fonction de ce qui y pousse. Dans l'idée, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de bois de chauffage, du bois bûche. On aurait la possibilité, avec ce linéaire-là, d'envisager de faire du bois déchiqueté réalisé par un prestataire. On pourrait faire des haies sèches aussi avec tout le bois qu'on coupe. Je pense qu'il y aurait du boulot pour un mi-temps de quelqu'un qui pourrait faire du bois de chauffage, le vendre, valoriser en fait toute cette partie sylvicole de l'équilibre agro-sylvopastoral. Il y aurait beaucoup de choses à faire sur des fermes, il y aurait des emplois à créer communément autour de ça. Ouais. Parce que nous, on veut implanter beaucoup, ça a une logique en fait pour l'avenir. Pour notre adaptation climatique, pour nos vaches, pour la régulation de l'eau. Maintenant, la gestion, ça nous rajoute énormément de boulot. Ouais. Actuellement, nous, on a eu juste le temps, on n'a même pas fini, de récupérer le bois qui était tombé naturellement de la tempête de 2023. Donc on n'a pas du tout eu le temps de se lancer sur les entretiens du fait de cette tempête. Donc ce bois-là, on le débite en bois de 50 cm de long pour le brûler en cheminée. On le fend et on est bien au-dessus de nos besoins personnels. Donc je pense qu'on va en vendre une partie ou en donner une partie à des gens qui nous filent des coups de main. Ça peut être des échanges. Lorsqu'on fait du bois déchiqueté, qu'on fait venir des prestataires, là généralement c'est emmené plutôt sur des chaufferies collectives. Ça dépend un peu de ce qu'on met en fait dans les déchiqueteuses à bois. Si on est sur des bois plutôt fins, avec beaucoup de matière verte, c'est du bois qui ne va pas trop aller dans des chaudières à bois déchiqueté personnel, enfin pour des usages particuliers. Donc ça ira plutôt en collectivité. Quoi.
Dans le jury, Niels peut compter sur un collègue, Jean-François Glinec, qui est certes botaniste, mais lui aussi éleveur laitier à Saint-Urbain, à la ferme de Trévarne.
Moi, je regarde un peu la cohérence par rapport au milieu, à la commune et au milieu topographique. Donc là... Bah là, on est pas mal, en fait, parce qu'on a une lande sur la partie haute. Donc, on a la haie qui est en jugement aujourd'hui, qui est comme elle est. Elle fera jamais, je pense pas que ce soit... Elle fera jamais d'arbres gros, je pense pas.
C'est quoi comme essence?
Il y a du noisetier, il y a de la bourdaine, il y a du fusain, il y a un peu de chêne. Le sol n'est pas... On n'est pas sur un sol très fertile ici. Donc, il ne faut pas s'attendre à... des merveilles pour cette haie-là. Mais elle fait son rôle de brise-vent, d'ombre pour les animaux, elle freine l'eau qui peut ruisseler, etc.
Et de refuge.
Voilà. Je pense qu'il peut y avoir quelques nids. Là-bas, il y a un roncier. Le roncier, c'est pas mal. C'est embêtant pour le gars qui gère la clôture, mais pour les animaux, c'est bien.
Il n'y a pas de plus petites plantes là qui seraient apparues, qui seraient étonnantes ou...
J'ai vu la benoîte des villes en haut, là. C'est une petite rosacée. Et autrement, je pense qu'on est encore sur une haie trop jeune pour accueillir des espèces typiques de haies. Donc au bout de 30, 40 ans, 50 ans, voire 100 ans, elle va s'améliorer. Mais c'est long.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura qui pourrait apparaître?
Il peut y avoir des fougères, par exemple. Il peut y avoir de la scorodoine.
De qui c'est ça?
Scorodonia. C'est une petite lamiacée. Il y aura peut-être du lierre qui va apparaître aussi, qui n'est pas encore là. Autrement, elle est pas mal. Il va pouvoir ramasser des noisettes bientôt.
C'est ça.
Peut-être pas cette année, mais à l'avenir, oui.
Oui, c'est ça. Ça peut être nourricier aussi, une haie comme ça. Ah, non, oui, c'est pas ce qu'il recherchait.
Si, si. Après, il peut mettre quelques pommiers dedans aussi. Enfin, il y en a. J'en ai vu un plus haut. J'aurais mis quelques pommiers greffés, mais parce que croquer une pomme en venant chercher les vaches, c'est pas mal.
Ouais, bah oui, parce que à Trévarne, vous participez pas au concours cette année, non, mais vous y avez déjà participé. Oui, vous faites de l'agroforesterie.
Bah, nous, on a déjà un gros linéaire bocager ancien. Donc, on n'était pas sur la même catégorie.
Et donc, de quoi, 20 km ?
On gère l'existant, ouais, une bonne vingtaine de kilomètres.
Et ça rajoute du boulot quand même.
Beaucoup, ouais. Et si on veut tout bien faire pour que ce soit joli, ça demande du travail.
Et puis, c'est pas pour valoriser le bois ?
Si, aussi, mais j'aime bien le côté esthétique de la haie, moi. Moi, j'aime bien quand c'est joli.
En termes de bois, justement, ça vous rapporte quelque chose ou quoi ?
J'essaie d'être efficace quand je coupe du bois. Donc, tout le bois coupé est valorisé, souvent en bûche. Donc je donne, je vends, ouais. Les gens comptent sur moi pour avoir chaud en hiver. Mais j'aime bien faire tout seul parce que moi je sais que c'est fait, je sais que c'est ramassé, que les branches seront rangées, voilà. Et que c'est fait en temps et en heure. Parce que si je donne à un tiers qui va me couper son bois, qui va le laisser tout l'été, les ronces vont venir dedans, enfin, ça va être le bordel.
Donc, pas joli, justement.
Non, pas joli. Et après ça peut avoir la casse matérielle si les bûches ne sont pas ramassées. Donc je fais tout seul, souvent.
Et vous avez dû vous équiper particulièrement
à
Trévarne.
J'ai une énorme tronçonneuse. Ouais, il serait jaloux, notre ami bûcheron.
Notre ami bûcheron, c'est Sylvain Paligaud, qui est aussi membre du jury du concours d'agroforesterie. Et lui enseigne cet art au centre de formation de Carliver à Anvec.
Je suis formateur en travaux forestiers, agroforesterie et agronomie.
Et vous diriez que ça a évolué les techniques de gestion, justement, de ces arbres de talus, enfin...
Bah, évoluer, c'est toujours compliqué à dire. Disons qu'on en revient un petit peu à ce qu'on faisait avant. Donc, on peut dire que c'est une évolution d'une certaine manière. On essaye vraiment de limiter et les gens commencent vraiment à prendre conscience du besoin de limiter les entretiens agressifs. Tout ce qui est à base de coupes rases, etc. De faire des coupes moins importantes et plus rapprochées sur un même talus. Ce qui est plus intéressant, mais ça demande aussi plus de temps, ça demande aussi plus d'entretien. De limiter tout ce qui est entretien mécanique, donc le lamier par exemple, qui pose énormément de soucis sanitaires. Et après, pour l'entretien des haies, quand elles ont été entretenues, le lamier, c'est très
compliqué.
C'est
quoi le lamier? C'est une grosse scie
Oui, voilà, c'est une espèce de scie circulaire qui passe, qui permet de faire l'entretien droit. C'est un outil qui est, je vais pas dire malheureusement nécessaire, mais très adapté à l'entretien rapide de grands linéaires, type bord de route. Mais qui pose de gros soucis, bah déjà sur l'entretien, parce que ça coupe les arbres, pas avec des coupes propres, pas au bon endroit, pas au ras du tronc. Donc on a beaucoup de blessures qui ne cicatrisent pas, beaucoup de défauts dans les arbres derrière, beaucoup de branches qui repoussent n'importe comment. Et on a aussi des gros soucis sanitaires, parce que le lamier va transporter forcément les maladies d'un arbre à l'autre, comme n'importe quel outil. Mais lui, il le fait sur des grandes distances, très rapidement, avec beaucoup de blessures. Donc on a beaucoup de propagation de maladies, notamment la calarose qui est en train de décimer 90% des frênes en Bretagne. Ça, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter, enfin qu'on préconise d'éviter légalement.
Et en termes de choix des essences, est-ce que ça évolue aussi parce que le climat se réchauffe et qu'on anticipe l'adaptation d'autres espèces
Oui, alors en forêt, oui, c'est quelque chose sur lequel les forestiers travaillent depuis longtemps. Moi, en tant qu'écologue, je me suis pensé aussi sur les questions-là, notamment sur le bocage. Disons que pour l'instant, ici, on va dire qu'on essaie de garder le moral, mais clairement, il y a des espèces comme le chêne pédonculé, par exemple, que l'on ne prend quasiment plus, sauf à réserver sur les parcelles vraiment humides, les fonds de vallée. Maintenant, clairement, on met du chêne sessile. On a commencé à travailler d'autres espèces, comme le chêne vert, par exemple. On commence à implanter beaucoup de chêne vert en Bretagne. Y compris, avant, c'était vraiment au surmilieu côtier, mais maintenant, on prend du chêne vert même dans l'intérieur de la Bretagne. Et c'est surtout, en fait, l'évolution qu'on voit, c'est sur l'évolution de la pluviométrie, enfin, de la répartition des pluies, avec des sécheresses printanières qui sont catastrophiques pour les arbres. Il y a notamment eu, en 2022, on a une sécheresse au printemps qui a provoqué des mortalités de l'ordre de quasiment 75% sur les jeunes plantations. On voit les effets en plus sur les arbres de mortalité sur 2, 3, 4 ans. Et ça se cumule avec d'autres effets, d'autres sécheresses, les tempêtes, etc. Donc clairement, maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on met. Des espèces comme le frêne, qui se porte encore bien en Bretagne, mais pareil, maintenant, il faut vraiment le réserver sur des parcelles qui ne soient pas trop sèches. Limiter les talus, surtout les talus récents qui sont trop exposés, qui sont trop séchants l'été, sur lesquels on va avoir beaucoup de mal. Ça veut dire aussi de simplement pailler, mettre des copeaux de bois au pied des arbres quand on fait une implantation de haies, pour garder la fraîcheur et ramener surtout beaucoup de matière carbonée à un sol forestier.
Ah ouais, pailler des haies, ça se fait quoi. Enfin, des bocages, ça se fait.
Oui, oui. C'est même conseillé de le faire systématiquement. Alors, ça peut être un petit paillage par une espèce de dalle de tissu fibré comme sur d'autres plantations. Mais l'idéal, c'est de mettre du copeau de bois. Ça peut être aussi de la paille, de la laine de mouton qui fonctionne aussi. La laine de mouton a un intérêt, c'est qu'elle est un répulsif du chevreuil. Donc, ça évite de protéger les plants.
Oui, on n'a pas besoin de mettre de protection plastique. Ouais.
Exactement. Mmh. Mais ouais, mettre du bois broyé au pied des arbres, ça va garder la fraîcheur, ça va éviter ça va faciliter l'entretien pour les herbes qui vont se développer autour. Et surtout, ça va permettre aux plants de ne pas manquer d'eau, ou moins manquer d'eau, en tout cas au printemps et à l'été. Parce qu'un jeune plant qui est mis sur un talus en plein soleil, déjà, il faut qu'il ait 1 mètre de racines pour arriver au niveau du sol, pour aller chercher de l'eau en été. Donc les premières années sont très compliquées. Donc avec le climat qu'on a maintenant en Bretagne, où on va des fois avoir 3-4 semaines sans pluie au mois de mars-avril, ce qu'on connaît que depuis peu de temps, pour les jeunes plants, c'est très très compliqué.
Ça va devenir difficile, quoi, en fait.
Mars, ça commence à devenir difficile. Avant, et sur le reste de la France, c'est encore le cas, mais... Selon les régions, ça commence à changer, mais c'est vrai qu'en forêt, on disait toujours qu'on plantait les arbres de septembre-avril. Maintenant, en avril, en Bretagne, c'est terminé. Sauf problèmes techniques ou marchés ou des choses comme ça. Mais toutes les entreprises et tous les techniciens disent qu'il faut arrêter de planter au mois de mars. Ça doit être impérativement fini. Parce que, de toute façon, on voit très bien, hein, maintenant, au mois de mars, les arbres ont déjà débourré, fait leurs feuilles. La croissance a déjà démarré, donc on a un printemps, on a quasiment plus d'hiver, en fait. Les arbres perdent leurs feuilles très tard. C'est pour ça qu'on a eu autant de dégâts à la tempête Charon. Hein. Elle est arrivée au mois de novembre, les chênes étaient encore en feuilles, donc ils ont tous cassé sous la pression du vent. Et au mois de mars, les feuilles sont déjà sorties, il n'y a plus de période de dormance. Donc ça devient très très compliqué à gérer pour nous derrière. Ouais. Enfin, pour nous en tant que gestionnaire forestier, ouais, c'est très complexe.
La remise des prix du concours d'agroforesterie, c'est pour l'automne. Le lauréat finistérien participera ensuite au concours national en mars 2026 à l'occasion du Salon de l'agriculture.